franceinter.fr.
Les arbres qui mesurent la durée des jours pour savoir quand ouvrir leurs bourgeons, c'est le printemps qui est à la une aujourd'hui de la science. Voilà, le Big Bazar et le printemps pour savoir justement comment les bourgeons du hêtre, par exemple, Axel, s'ouvrent fin avril et pas début mai ou fin mars, par quel mécanisme un arbre parvient à identifier le bon moment pour reprendre sa croissance. C'est une étude suédoise parue cette semaine dans la revue Science qui s'intéresse donc à l'influence de la durée des jours sur les arbres et qui démontre que la température n'est pas le seul facteur qui entre en jeu.
Et on en discute avec notre invité depuis les locaux de France Bleu à Montpellier, il s'appelle Xavier Morin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur pour le CNRS au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive. Alors Mathieu l'a dit, c'est le grand chambardement dans les forêts au printemps. Expliquez-nous un peu ce qui se passe au printemps.
Alors, ce qui se passe au printemps, en fait, ce qu'on sait le plus, c'est que il y a une reprise de l'activité des bourgeons. Mmh. Bourgeons qui en fait comportent notamment par exemple pour les bourgeons foliaires, les feuilles préformées. Et donc sous l'action, c'est justement ce qui est débattu, de la température et de la durée du jour, eh bien, l'activité cellulaire reprend dans ces bourgeons jusqu'à donc l'éclatement du bourgeon et donc ce qu'on appelle le débourrement du bourgeon, et pas le débourrage, et donc l'apparition des feuilles.
Mais les bourgeons ne se forment pas au printemps, alors ça c'est une erreur que peut-être certains font.
Et oui, donc les bourgeons se forment... avec une certaine variabilité selon les espèces d'arbres, mais donc plutôt à l'automne, sous nos latitudes. Et justement, c'est ce que cette étude, en fait le principal résultat de l'étude que vous mentionnez, publiée cette semaine dans Science, c'est justement de mettre en évidence comment les mécanismes, en fait, liés notamment à la durée du jour, la baisse de la durée du jour, comment est-ce que donc cette baisse est perçue par l'arbre, mmh, pour ensuite donc mettre en place des bourgeons préformés et induire l'entrée en dormance de ces bourgeons.
Mais ça, on l'ignorait jusqu'à maintenant, Xavier Morin ?
Alors, on n'ignorait pas totalement. Là, ce qui est vraiment nouveau, c'est que les chercheurs ont pu mettre en évidence que le signal de la baisse de la durée du jour avait en fait induisé deux mécanismes qui pouvaient être séparés donc au laboratoire.
C'est le bourgeon ou c'est l'arbre qui mesure la durée du jour ou qui mesure la température ?
Alors là, c'est une question un petit peu compliquée, le plus souvent, on pense que les choses sont perçues à l'échelle du bourgeon, mais il y a quand même des choses qui se passent, sinon à l'échelle de l'arbre, du moins à l'échelle, par exemple, de la branche, puisqu'il y a l'action de ce qu'on appelle des hormones végétales. Et par exemple, pour la mise en place des bourgeons, notamment l'acide abscisique, là, qui est, dont le rôle est mis en évidence dans l'étude. Là il y a un peu une interaction rétablir une interaction entre la branche et le bourgeon.
Alors finalement, comment se fait ce choix entre la température et la durée du jour pour savoir quel est le bon moment ?
Alors ça, c'est une très bonne question, c'est justement ce qui est débattu. Pour ce qui est donc de l'entrée en dormance, donc à l'automne, la cessation d'activité de croissance des arbres, donc d'activité cellulaire dans les bourgeons. Ça serait vraiment une interaction entre la durée du jour et la température. Et ce que cette étude sur une espèce, encore une fois, montre, là c'est sur une espèce de peuplier, montre que l'action prépondérante pour cette espèce de la baisse de la durée du jour. Par contre, pour ce qui se passe en ce moment dans nos arbres, que ce soit en ville ou en forêt, la reprise d'activité des bourgeons qui a déjà mené pour certaines espèces donc à l'éclatement du bourgeon et avec l'apparition des feuilles, l'action de la température est généralement reconnue comme prépondérante, avec encore une fois des pincettes, dépendamment des espèces. Vous mentionnez le hêtre tout à l'heure, c'est une des rares espèces pour l'instant dans le pour lesquels, en Europe, on a mis en évidence quand même une importance du signal de l'augmentation de la durée du jour au printemps.
Allez, une dernière question, Axel.
Oui, mais si la température est importante, ça veut dire que le réchauffement climatique va faire changer la date de débourrement des arbres, alors ?
Ah ben exactement, en fait c'est même le cas depuis quasiment depuis qu'on a qu'on documente donc la date d'apparition des feuilles, donc l'éclatement des bourgeons. Donc il faut savoir que depuis le siècle dernier, on va dire depuis 1950, en moyenne, les arbres en Europe ont connu un avancement, donc une plus grande précocité de cette apparition des feuilles, d'à peu près 3 jours par semaine.
Ouais.
Ce qui est, je m'emporte, 3 jours par décennie.
Ah oui, quand même.
Ce qui veut dire en fait 3 semaines à peu près, donc depuis 1950. Ce qui est en fait particulièrement drastique.
Est-ce qu'on va se servir de ce genre de résultats pour faire évoluer les forêts ou pour les gérer différemment ? Ce sera ma dernière question.
Bah, c'est plutôt, généralement, ce qui préoccupe les forestiers en ce moment, c'est comment pérenniser tous les services que rendent la forêt. Et notamment, donc, se pose la question d'avoir, en fait, au niveau local, des populations ou des espèces d'arbres qui soient le mieux adaptées aux conditions ou aux futures conditions. Et donc, il y a actuellement tout un débat sur est-ce qu'il faut favoriser la migration, voire par la plantation, d'espèces mieux adaptées, par exemple, au niveau de leur phénologie, donc de leur débourrement, par exemple. Donc, est-ce qu'il faut favoriser ça ou plutôt miser sur la résilience des forêts et leur adaptation intrinsèque?
En tout cas, ces études comme celles de Science peuvent aider justement à répondre à ces questions. Merci beaucoup Xavier Morin. Vous êtes donc chercheur pour le CNRS au Centre d'écologie fonctionnelle évolutive. Et vous étiez en duplex de France Bleu à Montpellier. Merci beaucoup et Axel, à très bientôt.
À bientôt.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le vaccin antigrippal de moins en moins efficace. Les chercheurs en biochimie de l'université de Rice aux États-Unis prédisent qu'en 2018, l'efficacité du vaccin contre la grippe serait seulement d'environ 20%. La méthode de production du vaccin serait en cause. Elle consiste à cultiver les virus dans des centaines de millions d'œufs de poules, ce qui à travers les années a fait baisser le taux d'efficacité. Une production à partir de cellules d'insectes pourrait bien prendre le relais. La grande barrière de corail australienne plus que jamais en péril. Une étude publiée dans la revue Nature rapporte que 30% des coraux sont morts durant la vague de chaleur de 2016. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1981, les canicules marines consécutives ont blanchi cette barrière, ce récif qui constitue le plus vaste ensemble corallien du monde. Les récifs recouvrent moins de 0,2% de la surface des océans, mais ils abritent 30% des espèces animales et végétales marines, les protégeant entre autres des prédateurs et leurs servant de garde-manger. Et puis, fidèle compagnon de l'homme jusque dans ses entrailles, selon une étude publiée dans le journal Microbiome, les chiens pourraient être de bons modèles d'analyse dans les études nutritionnelles. En effet, les chercheurs ont constaté que des modifications dans l'alimentation avaient des effets similaires sur le microbiote des chiens et des humains. Comme nous, les populations canines subissent des problèmes croissants d'obésité en lien avec leur alimentation. Ces études permettraient d'en savoir plus sur les régimes nutritionnels à adopter pour lutter contre cette maladie.